Et le journal est présenté par Mathieu Laurent. Bonjour Mathieu.
Bonjour Hervé et bonjour à tous. Dans cette édition, nous rendrons compte des mobilisations pour la défense de l'environnement contre les injustices sociales avec des rassemblements de gilets jaunes, des marches pour le climat à Paris, violence en cours près des Champs-Élysées. Nous prendrons également la mesure des turbulences au sein du Parti Socialiste, turbulences dues au rapprochement entre le PS et Place Publique, le mouvement fraîchement créé par Raphaël Glucksmann, Place Publique qui interroge toutes les gauches, précision de Yael Goz. Le peuple néo-zélandais blessé au lendemain des tueries qui ont fait 49 morts dans deux mosquées du pays, correspondance de Karine Otten. Et puis la Bulle Écho est signée ce samedi Anne-Laure Chouin. Et en ce week-end, deux marches pour le climat et de nouvelles mobilisations des Gilets jaunes. Une question, que faire de la taxe carbone ? Risque d'effacement des idées, quoi de plus dangereux pour une formation politique ? Risque d'effacement des idées au PS, c'est le député socialiste du Val-de-Marne, Luc Carvounas, qui s'inquiète de la sorte. Il s'en a ouvert ce matin lors du Conseil national du PS, voilà qui fait défaut au PS depuis des années, et c'est mot pour mot le reproche que formulait en fin de campagne une présidentielle, une grande figure socialiste, Pierre Mauroy, Lionel Jospin, au mois de mars 2002. Le PS ne s'adresse plus aux classes populaires. Le PS, comme les autres corps politiques, est confronté à d'autres formes de combats politiques et à l'enracinement, la confluence des indignations qu'ont les gilets jaunes, les grèves scolaires pour le climat et ce samedi, les marches du siècle. Avant d'en venir à ces marches du siècle, qui pour la plupart d'entre elles sont programmées dans l'après-midi, rendons-nous sur les Champs-Élysées à Paris, où des heurts ont éclaté ce matin entre forces de l'ordre et des manifestants. Sur place, Mathieu Mondoloni.
Oui, effectivement, oui, des affrontements sont toujours en cours ici, tout autour de l'Arc de Triomphe, des affrontements sporadiques avec des petits groupes qui se déplacent très rapidement. Des premières barricades ont été montées à côté de l'Arc de Triomphe, des pavés envoyés en direction des compagnies de gendarmes mobiles qui quadrillent tout le secteur. Elles sont disposées en cercle pour empêcher évidemment tout accès à l'Arc de Triomphe et notamment à la tombe du soldat inconnu, vous vous en souvenez, qui avait été dégradée en partie lors d'une des manifestations début décembre. Toujours ces affrontements et les gendarmes mobiles qui répliquent par des tirs de gaz lacrymogène, de grenades assourdissantes pour tenter de maîtriser la foule. Plusieurs centaines de gilets jaunes qui sont présents ici et qui, pour leur très grande majorité, sont spectateurs des événements qui sont tout autour de cette place et qui suivent les affrontements entre les forces de l'ordre et ces petits groupuscules violents.
Merci à vous, Mathieu Mondoloni, près des Champs-Élysées à Paris. Toute autre forme de mobilisation, de combat politique avec les marches du siècle. Écoutez à cet égard les paroles de Priscilla Ludowski, l'une des figures des Gilets jaunes que Véronique Rebeyrotte a rencontrée hier dans les rues de Paris, aux côtés des lycéens et des étudiants en lutte depuis hier pour la sauvegarde de la planète.
Le but, c'est pas de dire on est écolo ou on n'est pas écolo. C'est simplement de dire on alerte sur certains sujets. En l'occurrence, pour ce qui me concerne, j'avais alerté sur un sujet qui concerne la transition écologique et 1 200 000 personnes ont signé. Donc c'est qu'il y a au moins autant de personnes qui attendent des réponses à ces questions-là. Donc après, tout le monde n'est pas forcément sensible à ce qui se passe au niveau de la transition écologique, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a quand même une urgence au niveau du climat, qu'on souhaiterait quand même manger des choses plus saines, respirer un air plus sain, et je pense qu'on est au moins d'accord là-dessus. Après, pour ce qui est de la, enfin, quand on affine et qu'on va vers des mesures, là, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec les mesures qui peuvent être proposées. Pour ma part, la fiscalité écologique, je pense qu'elle est nécessaire dans le sens où on a tellement consommé n'importe comment et tellement, enfin, quand je dis on, je mets tout le monde dans le même sac, que forcément, on doit faire des efforts. Et si ça doit passer par... On vit dans notre société, là, en France, c'est un système qui repose sur la solidarité. Donc forcément, si on veut que les choses aillent mieux, il faut que tous on mette la main à la pâte. Moi, ce que je dénonce, c'est que la fiscalité telle qu'elle a été mise en place sur la transition écologique ne finance pas la transition écologique. C'est hypocrite, je trouve, de la part du gouvernement, de dire « Oui, mais vous êtes anti-fiscalité verte et vous voulez pas, justement, qu'on aille vers la transition écologique », alors que c'est faux. On paie déjà. On savait, en tous les cas, on nous avait dit que c'était pour ça et on n'a pas contesté ça, puisqu'on paie. C'est juste qu'aujourd'hui, moi, je demande des comptes. Où sont allés nos sous? Qu'est-ce que vous avez fait avec? Et pourquoi vous nous mentez, en fait? C'est ça, les vraies questions.
Voilà, venons-en à ces fabriques politiques en panne, risque d'effacement des idées, disions-nous en ouverture de cette édition. Ce sont les paroles du député socialiste du Val-de-Marne, Luc Carvounas, qui assiste en ce moment même à un conseil national réuni à huis clos dans les bureaux du Parti Socialiste. Et un dossier l'emporte sur tous les autres. Ce dossier, c'est celui du rapprochement entre le PS et le mouvement cofondé par l'essayiste Raphaël Glucksmann. Place publique et place public qui, à vrai dire, sème le trouble au sein des gauches. Yael Goz.
Pour Yann Brossa, la tête de liste communiste, c'est clairement non. Si la gauche est divisée, c'est parce que les projets sont différents, il faut l'assumer, dit le PC. D'ailleurs, souligne Yann Brossa, Raphaël Glucksmann, en se présentant, est mal placé pour parler d'unité, il est en pleine contradiction.
Entre l'ambition de départ, qui était l'ambition de rassembler la gauche, et le résultat de tout ça, qui est finalement la présence d'une liste supplémentaire aux élections européennes, contribuant un peu plus à un éclatement qui existait déjà.
Et ça ne bouge pas non plus chez Europe Écologie Les Verts. Pour la députée européenne sortante Michèle Rivasi, le PS est un repoussoir.
Je ne comprends pas cette volonté de vouloir être tête de liste avec des gens qui ont déçu les Français. C'est quoi le PS à l'heure actuelle? C'est qui? C'est quoi leur ligne?
Statu quo, enfin, au sein de la liste Génération portée par Benoît Hamon, toujours aussi allergique à son ancien parti, le PS. Et ce n'est pas parce que Raphaël Glucksmann fut la plume du candidat Hamon pendant la présidentielle que les routes vont de nouveau converger, explique le député européen Guillaume Balas.
C'est pas à nous d'aller répondre aujourd'hui à des injonctions. Franchement, il y a eu beaucoup de cinéma, en fait, dans tout ça.
Chacun chez soi, donc, mais avec la crainte d'y laisser des plumes. Dans les sondages, EELV plafonne à 7-8%, à peine 3% pour Génération. La nouvelle liste PS Place Publique est une menace pour Benoît Hamon et Yannick Jadot dans le bas de tableau du championnat des européennes.
Il est un peu plus de 12h36. Vous écoutez le journal de France Culture. Le venin des idéologies suprémacistes, suprémacistes blanches en l'occurrence. L'auteur présumé du carnage qui a coûté la vie à 49 fidèles de deux mosquées de Nouvelle-Zélande s'est nourri de ses écrits qui ensauvagent les âmes errantes, selon la formule du psychologue Toby Nathan. L'homme a été mis en examen hier pour meurtre. Cet Australien de 28 ans sera maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la Haute Cour le 5 avril prochain. Il était en possession de 5 armes lors de son arrestation. La première ministre néo-zélandaise a d'ores et déjà promis de faire bouger les lignes de la législation sur les armes à feu. On en compte 1,5 million. Dans un pays de 5 millions d'habitants, mais la classe politique néo-zélandaise se doit surtout d'être avant toute autre chose au chevet d'un pays blessé. Christchurch, Carrie Nutten.
Une longue chevelure blonde, un air d'ado encore sous le choc, Brooke Connelly, 17 ans, partage la consternation de ses concitoyens venus se recueillir aux portes des jardins botaniques, à quelques mètres de l'hôpital où ont été conduits les blessés du massacre des mosquées. Elle raconte la fermeture d'urgence de son établissement scolaire la veille, alors que la police a ordonné le confinement des écoles tant que le tireur n'était pas maîtrisé. Les lumières éteintes, les heures passées en silence sans avoir aucune explication, et puis enfin, les emails de la direction qui leur relayaient les messages de la police. Brooke Connelly.
Yes, we had our mobile phones, but we're trying to keep them open to the services. They were trying to contact school and give us information, so we're trying our hardest to not go on them. We're meant to finish at 3:30, but we ended up going at, it was like 6:30. Well, I was more nervous for my little sister, who's her first year at high school, but it was just scary because like nothing happens like this here, and it was just kind of like shocking, really. And it was just like a realization, like it can happen to anyone and anywhere. We're a small little city in New Zealand. New Zealand's like the bottom of the world, so like, you know, it's small, like it's, we're not big, so like you just wouldn't expect it really.
Pour mieux vivre cette fin d'immunité, les Néo-Zélandais ont ressorti les concepts maori. We are kia kaha, pouvait-on lire inscrit à la craie sur le trottoir. Nous sommes forts, nous allons l'affronter et nous allons aller de l'avant.
Merci à vous, Carrie Nutten. Quand les traditions hébergent de coupables relents colonialistes, on les appelle les Noirous. Les membres de cette association déambulent chaque année pendant la période de carnaval dans les rues de Bruxelles pour récolter de l'argent pour les enfants défavorisés. Ils sont déguisés, ont le visage grimé de noir, un maquillage que quantité d'associations ont qualifié de raciste. Eh bien, les Noirous ont décidé de défiler ce samedi avec le visage peint aux couleurs du drapeau belge. Donc il est l'heure de la bulle écho, pardonnez-moi, la bulle écho qui est signée ce samedi Anne-Laure Chouin. Et en ce week-end, on l'a dit, de marche pour le climat et de nouvelles mobilisations des gilets jaunes. Une question que pose la bulle écho, que faire de la taxe carbone?
La bulle économique, Anne-Laure Chouin.
C'est la goutte d'essence qui a fait s'enflammer les gilets jaunes, mais l'augmentation de la taxe carbone, c'est surtout l'illustration d'une théorie économique efficace sur le papier et qui se prend le réel dans la figure.
Taxe carbone, taxe carbone, taxe carbone, tu déconnes.
Pour tenter d'expliquer les raisons de l'échec de cette volonté gouvernementale d'augmenter la taxe carbone, des économistes de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, ont rendu public cette semaine un rapport. Mathieu Sojo, Nicolas Bergmans et Lucas Chancel expliquent de façon brillamment synthétisée comment un outil brandi par les économistes et certains politiques comme l'instrument avec un grand I, capable d'amorcer un changement de modèle, est devenu le symbole d'une déconnexion et d'une injustice. Déconnexion car cette nécessité de payer plus cher son essence pour tout le monde ne tient pas compte des disparités existantes dans la population. Il y a ceux qui peuvent absorber ce surcoût et ceux qui ne peuvent pas. Il y a ceux qui peuvent se passer de voiture et ceux qui ne peuvent pas. Dans la théorie, ce type de taxe provoque ce qu'on appelle l'élasticité prix. En possession de toutes les informations nécessaires, nous, agents économiques rationnels, choisirions l'option la plus efficace pour satisfaire nos besoins. En l'occurrence, face au renchérissement du coût de l'essence, nous devrions privilégier des modes de transport alternatifs, plus sobres, plus doux, plus collectifs. Éventuellement, nous devrions acheter un véhicule électrique. Or, dans le monde réel, l'élasticité prix ou la capacité de changer ses habitudes, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord parce que tout le monde ne dispose pas de toutes les informations disponibles, notamment la possibilité de recourir à des primes ou au chèque énergie par exemple. Le taux de non-recours à ces dispositifs est significatif de ce point de vue. Par ailleurs, ce qui dicte nos choix tient plus souvent de l'habitude que de la rationalité. Passer d'un coup d'un seul de la voiture au vélo, au train ou même au covoiturage, pour ces trajets domicile-travail, c'est souvent difficile. Ensuite, notre taux d'actualisation, c'est-à-dire la peur d'avoir à supporter une dépense élevée à court terme avant de bénéficier d'économies à long terme, ce taux-là est élevé. En d'autres termes, acheter cher une voiture électrique pour à terme payer moins de carburant, ça n'est pas naturel pour tout le monde. Sans compter, enfin, des contraintes d'accès au capital. Tout le monde, et notamment les plus modestes, n'a pas la capacité de mobiliser une forte somme d'argent pour changer son véhicule. En résumé, changer de comportement parce que le carbone coûtera plus cher, ça ne va pas de soi. Et puis il y a d'autres éléments qui expliquent ce rejet, le sentiment d'injustice. Les ménages sont mis à contribution, mais le transport routier, le transport aérien et les industries sont, elles, exonérés. En outre, l'État n'a jamais été en capacité de convaincre que cette hausse de la taxation carbone n'était pas initiée pour autre chose qu'une logique de rendement budgétaire. Bref, cette taxe carbone, elle n'a rien pour plaire.
Taxe carbone, tu déconnes.
Ceci posé, que fait-on ? On en profite, proposent les trois chercheurs, pour investir massivement dans des alternatives décarbonées. Ils proposent par exemple de profiter du plan mobilité pour mettre en place un plan vélo digne de ce nom, pour développer les transports ferroviaires dans les régions qui en manquent, pour investir dans la rénovation énergétique ou dans les infrastructures. Autrement dit, il faut créer les conditions d'une transition écologique acceptable qui permette de préserver le budget des ménages les plus modestes. La recette de la taxe carbone actuel qui rapporte à l'État près de 9 milliards d'euros par an doit être reversé à ces ménages-là, les plus modestes, qui pourraient être aidés de façon personnalisée à envisager d'autres moyens de se chauffer ou de se déplacer. Enfin, faire contribuer les autres secteurs, l'aérien, le routier, l'industrie, paraît indispensable, estiment les auteurs du rapport. En somme, il faut restaurer la confiance des ménages en la volonté des pouvoirs publics d'amorcer une réelle transition énergétique. Cette confiance retrouvée, on pourrait alors envisager plus sereinement d'augmenter à nouveau la taxe carbone.
Merci à vous, Anne-Laure Chouin. Le temps de l'après-midi en amélioration avec la fin des pluies et des éclaircies de plus en plus belles. Température maximale comprise entre 12 et 18 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 22 à 25 degrés au pied des Pyrénées et dans l'arrière-pays méditerranéen. Cette édition a été préparée avec Chloé Leblon à la technique Alex Dang.